Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, ensemble, ici, nous allons essayer d'apprendre un mot. Le mot de ce soir est... Découvrons-le ensemble.
Rien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire.
Les curieux sont sur RTL.
Car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour, bonjour à tous.
Heureux de vous retrouver dans la curiosité. On connaît votre passion pour l'histoire. Est-ce que c'est par ce biais, en fait, que vous vous êtes dit, il faut que je raconte l'histoire de notre langue française ?
Ouais, c'est parti de moi, en fait. Tout simplement, une interrogation autour de ce qui m'entoure, de ce qu'il y a de plus immédiat. Ça a commencé par les rues dans lesquelles j'habitais, donc les stations de métro que j'empruntais autrefois, etc. Donc je me posais la question de savoir ce qui se cachait derrière. Et j'ai fait un glissement naturel du nom des rues, nom des villes, nom des, les noms de notre histoire, aux mots de notre histoire et aux mots de notre langage. Quoi. Pourquoi on s'exprime avec tel ou tel mot quand on veut exprimer une émotion, une sensation ? C'est passionnant.
Ouais, et le langage, c'est ce qu'on découvre, ce qu'on a découvert en préparant... l'émission, notamment en lisant votre livre romanesque et chez Michel Lafon, c'est que le langage, c'est quasiment infaillible pour définir ce qu'est une nation.
Ou en tout cas, ce qui est pour le plus efficace et je pense le plus pertinent et finalement le plus vrai pour définir notre identité, quoi. Qui nous sommes ? Qu'est-ce qu'un Français ? C'est pas notre religion, c'est pas notre couleur de peau, c'est pas le fait d'être né ici ou de vivre ici. Non, ce qui fait de nous des Français, je pense, c'est cette langue française qui nous permet de participer à ce beau projet. La France.
Et c'est là que ça se complique, parce qu'on dit
c'est
nos ancêtres.
Laurent Deutsch entre en politique.
Et bah.
Le déclic, c'était quand ? Il demandera ça dans 10 ans.
Après, et c'est là qu'on a
après son second mandat, c'était dans le studio de la curiosité. Je me suis lancé en politique.
Et alors, on dit que nos ancêtres, ce sont les Gaulois. Donc, on parle gaulois aujourd'hui, Laurent Deutsch ?
Eh bien non, justement. Et c'est au niveau du langage, hein, si vraiment la langue est la valeur étalon de notre identité, ce à quoi, en tout cas, je crois, et puis je trouve que ça nous va bien, parce que c'est une langue qui est magnifique, eh bien, le gaulois n'a rien à voir dans tout ça, puisqu'il n'y a pas 100 mots gaulois dans le français que vous parlez, que nous parlons vous et moi, quoi. Donc c'est 0,1% de la langue. Il y a à peu près 100 000 mots dans les dictionnaires français les plus sophistiqués et il n'y a que 100 mots d'origine gauloise. En plus, c'est que les noms de poissons ou d'outils agricoles, donc on va pas aller loin. Quoi.
Ah bah vous nous faites la liste ?
Oh bah ça va de la bonde, la benne, la barque, la charrue, la charpente, la souche, la truie, le brochet, le peuplier, la truite,
le
blaireau, la truie. Ouais, bah pour draguer, c'est pas évident. Il y a la louette, ça c'est joli la louette.
Ah, pour draguer, c'est mieux.
La louette, ça va.
C'est très
Victor Hugo l'a déjà utilisé, ça fonctionne.
C'est ce que dit Sylvie, c'est juste, c'est très. Campagnard, c'est la nature,
pas,
c'est voilà,
mais
c'est
logique. Ils n'ont pas inventé Internet, les mecs. Hein,
voilà,
on doute
c'est
que c'est un vocabulaire
qui
correspondait à leur époque et à leur temps.
Évidemment.
Mais c'est vrai que c'est assez réservé à des outils agricoles ou à des arbres et à ce qui les entourait.
Et à la guerre
il y a
aussi, non, Laurent Deutsch ?
Alors la guerre, il y a quelques mots, mais c'est surtout les Francs. Les Germaniques, qui eux, comme ils sont arrivés au 5e siècle conquérants, ils vont vraiment conquérir le pays, on garde des francs, beaucoup de mots, et la plupart d'entre eux sont dans un vocabulaire militaire, comme des mots comme baron, blaze, brave, éperon, étendard, marquis, maréchal, aume, gardé, guetté, guerroyer. Bah oui, bah, c'était pas des majorettes, les mecs.
Oui, donc,
le vocabulaire
fleurs,
est assez belliqueux, ouais, belliciste.
Mais donc, Laurent Deutsch, l'influence ou l'origine principale de notre français, c'est quoi ? C'est le latin ?
Oui. Si vous aimez Astérix, je vais vous décevoir, mais votre ancêtre, c'est pas le petit marrant avec des plumes, mais c'est le gros balèze en cuirasse, hein, c'est Jules César.
Ouais.
80% des mots qu'on
c'est
emploie.
C'est le gars avec les sandales, là.
Ouais, c'est lui, celui avec les spartiates, là. Et... Ah, ouais, non, 80% des mots qu'on emploie nous viennent du latin de Papa Jules.
Ça s'est mixé, ça a pris du temps, le latin pour s'imposer aux Gaulois.
Il y a eu plusieurs étapes. Dans un premier temps, c'est évidemment les petits malins qui vont se mettre au latin en Gaule, à savoir ceux qui veulent être au plus près des envahisseurs, donc les chefs et les marchands, ceux qui veulent se faire du blé et ceux qui veulent avoir de la puissance politique. Donc eux, ils se mettent assez tôt au latin, donc dès le premier siècle de notre ère. Mais le petit peuple, lui, il va être plus ou moins réfractaire. Il s'en fout des Romains, il n'est pas en contact avec eux dans les campagnes, etc. Ou il se fait taper dessus, ou en tout cas, il se fait maîtriser. Les Romains, en plus, les laissent tranquilles. Ils cherchent pas à les convertir, donc ils sont pas vraiment en rapport avec eux, mais c'est la religion chrétienne qui elle se diffuse et s'écrit en latin, qui va être le facteur déterminant, qui va faire que le Gaulois va petit à petit disparaître. Et en plus, quand Clovis va se convertir au christianisme au 6e siècle, eh bien c'est à ce moment-là que le Gaulois va quasiment totalement disparaître de la Gaule au 6e siècle.
Alors,
de notre ère.
Laurent Deutsch, quel est l'impact de la religion et à quel siècle ça se noue ? Comment cette religion va changer notre langue, celle qu'on va parler aujourd'hui en tout cas ? Elle va commencer de la construire.
Eh bien par sa liturgie, à partir du moment où elle va devenir quasiment une religion officielle, hein, avec Saint-Martin, avec la fin du 4e siècle, c'est une religion qui en plus va être parlée par tous. C'est-à-dire que
religion parlait partout, vous dites.
Dans toutes les classes sociales.
D'accord.
C'est-à-dire que quand Clovis se convertit, on pratique la religion chrétienne et on écrit, on apprend les textes en latin, etc. Le sermo humilis du roi au plus modeste de ses sujets. Donc c'est là que ça devient carrément homogène et exhaustif.
Oui, c'est
là
façon,
que ça se répand le plus.
C'est une façon d'unifier la langue française. La religion a permis ça.
Clovis, il s'est converti au christianisme. Je pense pas que c'est parce qu'il a entendu des voix comme Jeanne d'Arc. Je pense que ça a été un instrument politique de premier ordre pour justifier sa légitimité et son autorité par rapport à d'autres tribus d'envahisseurs germaniques qui étaient là à la même époque que Clovis et les Francs. Il y avait les Visigoths, les Burgondes, les Alamans, il y en avait plein. Et on a préféré Clovis parce qu'il s'est converti au christianisme et qu'en plus il parlait latin, le mec. Donc voilà, tout était en place pour qu'on le suive lui plutôt qu'un autre.
Et qui en priait en Gaule avant le christianisme ?
Il y avait tout un pan. Alors, les Gaulois, ils avaient tout inventé, ils étaient polythéistes, donc oui. ils croyaient en, il suffit de lire Astérix, on retrouve les noms, il y a Toutatis, il y a Belenos, il y a Smertrios, il y a Cernunos, il y a Esus, et les Romains, eux aussi étaient polythéistes, d'ailleurs c'était des dieux qui avaient à peu près les mêmes fonctions, mais sauf qu'ils s'appelaient pas pareil, c'était Jupiter, c'était Mars, Vénus, Mercure, Apollon.
C'est dû être dur, Laurent Deutsch, pour les Gaulois et les Romains d'abandonner leurs dieux, leurs multiples dieux.
C'était rassurant
pour le quotidien.
La religion chrétienne a été assez violente, ouais. Puisque autant les chrétiens, il n'y a qu'à voir par exemple Saint Julien qui est empereur de Romains, couronné à Paris, donc là c'est quand même un peu de chauvinisme, ne fait pas de mal, on verra plus ça avant Napoléon en 1804 je crois, donc lui il a été couronné sacré empereur à Paris et il est plutôt respectueux, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être chrétien, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'apostat, parce que lui disait moi aussi j'aime bien le panthéon romain et les autres dieux, on peut cohabiter, regardez nos ancêtres, ils avaient plusieurs dieux, donc il n'y a pas de problème. Les chrétiens ça va moins le faire, quoi. Ils vont moins être d'accord avec ça et Saint-Martin il va casser tous les autels, les druides, il va les pourchasser, etc. Ils vont repartir en Angleterre, il y a beaucoup de celtes qui vont foutre le camp à ce moment là en Angleterre pour garder leurs anciens cultes, où les chrétiens seront très 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 par souci d'homogénéisation, encore une fois c'est le côté une langue par royaume, quoi. On parle la même langue, on croit le même dieu.
La curiosité est un vilain défaut.
Kawax, tu peux nous rappeler la définition de kawax, Liliane ?
Sur RTL.
Ah oui, non, d'accord, il y a très belle lettre dans ton mot, mais la deuxième condition de Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme touche à la corde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante.
Sidonie Bonnec.
Oui, tu l'as entendu, écoute, je sais pas.
Thomas Hugues.
Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en tout cas, français, ça veut rien dire du tout. Voilà.
Bon, on va pas se la raconter. On a tous triché au Scrabble. On adore ce sketch de Pierre Palmade avec Laurent Deutsch aujourd'hui. Dans la curiosité, on raconte l'histoire de cette langue française qui nous réserve toujours pas mal de surprises et de plaisirs aussi. Grâce à vous, Laurent, on a appris que seulement 100 mots sur les 100 000 mots qu'on peut employer ou qui existent en tout cas dans notre langue française nous viennent des Gaulois. Tous les autres sont venus d'autres peuples. On les appelle les barbares, les envahisseurs. Ce sont des mots venus d'ailleurs et c'est ce qui fait la richesse de notre pays et de notre langue. Donc on peut en être fier. Et avec vous, on repart au 5e siècle, l'Empire romain est en déclin. Et là, la Gaule, évidemment, séduit beaucoup d'envahisseurs. Que va vivre à ce moment-là notre langue française ?
Eh bien, les mouches vont changer d'âne, quoi. C'est-à-dire que les Gaulois ont abandonné leur langue pour le latin de Jules César, ouais. Après la conquête romaine de la Gaule au 1er siècle avant notre ère. Eh bien, tout naturellement, au 5e siècle, il y a un nouvel envahisseur germanique qui arrive. Et là, on se dit, logiquement, la Gaule va se mettre à apprendre le germanique de Clovis, le francique. Et là, pas du tout. Au contraire, on va garder le latin. Comme je le disais, le latin va s'imposer complètement. Sauf que, quand même, avec les Germains, ce latin, il va se prendre un sérieux coup de pelle. Quoi. Il va vraiment évoluer. D'abord, les Francs, ils vont vouloir garder des mots à eux. Il y a à peu près 600 mots dans la langue française d'aujourd'hui qui nous viennent de Clovis et ses copains. C'est d'ailleurs ce qui fait de la langue française la plus germanique des langues latines.
Il y a notamment les mots de guerre dont,
voilà,
parliez,
dont on a parlé tout à l'heure.
Et le mot guerre lui-même, il vient aussi
guerroyer, c'est un mot franc. C'est un mot francique, c'est un ancien mot francique qui nous vient directement de cette époque-là où les mecs, ils ont conquis la Gaule à la force de l'épée. Mais il y a des mots plus sympas aussi chez les Francs. C'est pas que des brutes épaisses. On leur doit un certain nombre de nos couleurs aussi.
Oui, le bleu,
le blanc, ouais. Le blond, le gris, qui au départ faisait référence à la couleur de leurs chevaux.
Et ça, c'est des mots qu'on n'avait pas dans la langue avant.
On le disait autrement, on le disait à la latine, et puis ça s'est imposé. Et ce qui fait que aussi le latin classique de Jules César et des grands auteurs statufiés du 1er siècle comme Virgile, Cicéron et Sénèque, il a bougé, puisqu'évidemment on ne parle plus latin, c'est l'accent des Francs.
Ah oui,
ils avaient un accent tonique très prononcé, les mecs. Ils tapaient très fort sur le début d'un mot et puis ils laissaient littéralement tomber la fin, quoi. Donc si je vous prends par exemple un mot latin repris par Clovis, puisque comme je le disais, Clovis va reprendre le latin, il va pas vouloir que les Gaulois apprennent le germanique. Eh bien un mot comme par exemple le fragilis en latin, comme ils tapaient très fort, les Francs, ça va devenir Fra-Gilis, puis petit à petit Fra-Gilis, et pour finir, Frel. Voilà comment on a fait Frel.
C'est pour ça que le E muet apparaît aussi.
C'est l'acte de naissance de notre E muet.
Le E muet et le H aspiré, ça vient de...
Et le H aussi, ah oui, oui. Alors ça, comme il tapait très fort sur le début d'un mot, quand il y avait un H qui, au début, ça s'entendait. C'était une consonne sonore frappée.
Ça donnait quoi?
Comme on la retrouve, je sais pas, comme par exemple, regardez, on en retrouve encore chez nos voisins anglais ou allemands. Herr, vous tapez sur le H, on l'entend.
Oui.
Hund, le chien, en allemand, on l'entend.
Oui.
Donc nous, si aujourd'hui les Français ont fait la liaison, les hommes, les honneurs, mais qu'on la fait pas pour les hérons et les hachoirs, eh ben c'est tout simplement parce que ces deux derniers mots sont des mots germaniques.
Donc on a l'accent de Clovis aujourd'hui.
On a l'accent de Clovis et les résidus, les traces de leur présence et de leur installation jusque dans les mots, où en fonction des zones où ils étaient plus ou moins présents en Gaule, puis en Royaume des Francs, puis en France, eh bien il va y avoir une fracture linguistique qui va se constituer et le latin va commencer à se subdiviser. Au nord, on va commencer à parler un dialecte latin de langue Doyle, et au sud de la Loire, on va commencer à parler un dialecte latin de langue Doc. Et tout ça, c'est dû à la présence et à l'accent des Francs. Alors, à cause de ça.
Moi, je suis un peu lent de la comprenette des fois, donc je voudrais juste revenir sur cette histoire.
Oui,
merci. Sur cette histoire de H aspiré, les hommes et les hérons, pour bien comprendre la différence. Les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des mots
latins
qu'on utilisait avant l'arrivée des Francs ou des Francs-Siques, des Francs germaniques.
Voilà.
Et donc, à l'époque, on faisait la liaison.
Bah oui, puis parce que c'était hominem, c'était un mot qui n'avait pas de H, et il n'y avait pas d'accent franc qui allait le corrompre, ou en tout cas, il était là avant, alors que héron ou hachoir, c'est un mot germanique, et eux, comme ils tapaient très fort sur le début du mot, eh bien, cette espèce de langage d'accent tonique s'est retrouvé dans un H aspiré très fort.
Et cette histoire d'accent, Laurent Deutsch, ça vaut pour le mot table aussi. On disait tabula, c'est ça? Donc l'accent était sur la fin du mot.
Exactement.
Et c'est devenu
table, et c'est valable pour plein de mots qui se sont petit à petit corrompus et où on n'a pu garder que la première syllabe, comme je le disais avec le mot frêle, voilà, qui est le mot fragile en fait. Et fragile, c'est d'ailleurs un néologisme latin du XVIe siècle, mais c'est pour une autre histoire.
Oui, c'est pour une autre émission.
Oui, c'est ces fameux synonymes en fait.
C'est déjà que j'ai du mal à comprendre alors.
Pourtant, c'est très simple.
Mais oui, c'est très simple et c'est passionnant. On va parler de l'Académie française avec vous maintenant. Pour comprendre ce que pourraient donner nos échanges sans son travail, je vous propose un extrait de la bande-annonce de votre spectacle au Théâtre de Paris.
De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire, non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais.
Laurent Deutsch, cette Académie française qui est chargée de définir le bon usage de la langue.
De la fixer. De la fixer
ça,
surtout, parce que la langue française a toujours rougi par rapport au latin, parce que le latin était une langue écrite, fixée, donc il y avait un code, une règle, une grammaire immuable et intangible, alors que le français est une langue orale. Né d'un latin dégénéré avec les accents dont on a parlé, les dialectes, etc., et toutes ces rencontres, les métissages, les mariages avec les apports venus de l'extérieur et de l'étranger. Et au bout d'un moment, on a tapé du poing sur la table. On a dit, mais regardez, même Rabelais, quoi, dans Pantagruel, quand il écrit le mot voyage, il l'écrit jamais pareil, quoi. Il l'écrit de 30 façons différentes. Donc maintenant, ça suffit. On arrête de rigoler. On n'est plus un jeune chien fou. Maintenant, on va voir fixer des règles. On crée une grammaire. C'était l'ambition de l'Académie française.
C'est à partir de quand, ça? C'est
1634, sous la houlette de Richelieu, la naissance de l'Académie française, pour fixer la langue française.
C'est fucking compliqué la langue française parce que vous faites des choses avec exprès pour emmerder les gens qui apprennent le français.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
J'ai décidé pendant un an de m'améliorer en français au Québec. Personne m'avait prévenu.
Sur RTL.
Partir au Québec, s'améliorer en français, c'est comme partir en Angleterre, s'améliorer en cuisine.
La curiosité.
On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec.
Est un vilain défaut.
Extrait du spectacle de l'anglais très francophile Paul Taylor. Et nous, on raconte la folle aventure de la langue française avec notre invité, le comédien, auteur, passionné d'histoire, faut-il le présenter, Laurent Deutsch. On file au 18e siècle, Laurent, à cette époque où le français... domine l'Europe, domine les cours, l'aristocratie européenne. Si
oui, ça va devenir la langue diplomatique des États. La langue parlée dans toutes les cours, désirée dans toutes les cours. Il y a une phrase incroyable qui est de Frédéric II, qui est quand même le créateur, le fondateur de l'Allemagne moderne, qui, parce qu'il a été bercé dans sa jeunesse par une nounou française, il a été élevé au son du français, et bien il voudra, et c'était son souhait, que le français soit absolument et impérativement la langue universelle pour tous. C'est un Allemand qui dit ça.
Mais c'est
au XVIIIe siècle, on cartonne à l'international.
Et pourquoi on cartonne à l'international avec notre langue française? Qu'est-ce qui explique
cette domination? Parce que d'abord, elle a été, d'abord, c'est vrai qu'elle s'est enrichie incroyablement sous l'égide de Louis XIV, qui l'a accompagné, qui l'a soutenu. C'était un amoureux des arts, des lettres. Il a été mécène de tous nos grands auteurs classiques, que ce soit Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine, La Bruyère. Bah, bref, il les a tous soutenus, tous aidés. Il a créé toutes nos académies. Il a créé c'est lui qui a transformé le Louvre en musée. Donc c'était vraiment un amateur d'art très fort. Et c'est vraiment grâce à lui que la langue française va atteindre un degré de perfection inégalé. Quoi,
donc elle fait envie, c'est ça. Tout le monde a envie de nous copier.
Elle est onctueuse. Ouais. Parfois, elle est un peu empoulée, un peu exagérée. Ouais. Mais en tout cas, elle a toute la subtilité, toute la nuance pour exprimer finement une émotion, etc. Et tout le monde va le désirer. Et en plus, il y a une raison géopolitique aussi à tout cela. C'est qu'à cause de Louis XIV et sa révocation de l'édit de Nantes, eh bien, les protestants du royaume qui avaient flippé 100 ans plus tôt pendant les guerres de religion, ils vont à nouveau flipper. Il y a des dizaines de milliers de personnes, des gens riches, lettrés, hein, des cerveaux, des talents, des militaires, des commerçants, des négociants, qui vont fuir le royaume de France de Louis XIV, rendu donc intolérant avec sa révocation de l'édit de Nantes, et ils vont aller engraisser les cours d'Europe. En Hollande, en Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Russie, en Suisse, c'est des gens importants, des gens puissants, donc ils sont au plus près de la cour. Et en quoi ils communiquent, ces gens-là? En français. Ouais. Donc ils communiquent entre eux en français et ils vont insuffler du français partout dans toutes les cours et tout le monde va la désirer.
Mais ça veut dire que la culture française vient avec.
Ah bah bien sûr, regardez Voltaire qui a passé sa vie au crochet de Sans Souci là, chez Frédéric II, chez les Russes, etc. La langue française, l'esprit français, la culture française va être adorée, adulée pendant tout le XVIIIe siècle et même ça continuera puisque même la Révolution restera quand même un modèle d'affranchissement et de quête de la liberté qui va rester très fort tout au long du 19e siècle.
On aurait aimé que ça dure. Malheureusement, un événement historique, malheureusement, c'est un événement important aussi dans notre histoire, mais va mettre cette langue française, pas par terre, mais en tout cas, ça ne sera plus la langue dominante. C'est quel événement, Laurent Deutsch?
C'est-à-dire
les cours européennes.
Disons qu'elles vont regarder les Français d'une autre manière, tout d'un coup. C'est vrai que pour les cours, ce qui s'est passé en France, il ne faudrait pas que ça se métastase à tous les pays d'Europe. Donc c'est bien joli.
On est la langue des rebelles, quoi, c'est ça?
C'est bien joli, mais en même temps, il faut s'en méfier. Et en même temps, ça inspirera des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui se référeront en permanence à cette conquête des Lumières françaises.
Est-ce que la Révolution a voulu changer la langue française?
Ah oui, complètement.
Les révolutionnaires, d'ailleurs.
Complètement. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait du latin, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il faut vraiment le savoir, on est malgré nous, inconsciemment, moi je suis un acteur engagé, je suis venu dénoncer des trucs, sans que vous vous en rendiez compte, on vit dans une hiérarchie latin-français-patois. On le sait que le patois, ça a toujours été une langue un peu déconsidérée par rapport à une langue officielle, la langue des médias. Regardez cet homme politique très connu l'année dernière qui s'est foutu de la gueule d'un journaliste à l'accent du Sud prononcé, comme si sa question pouvait pas être sérieuse sous sa forme sonnante et pittoresque. Il y a cette espèce de décalage qui est complètement injuste, parce que je rappelle quand même que le français, qui est la langue standard, celle du roi dès le Moyen-Âge, c'est un dialecte parmi d'autres, qui est ni bon, ni meilleur, ni moins bon. C'est juste la langue du roi. Bref, ensuite, ça s'est codifié, c'est devenu le français d'Île-de-France, préféré, soi-disant, à toutes les autres formes de dialecte. Mais qu'est-ce que je disais?
Donc il y a des niveaux hiérarchiques.
Oui, voilà. Il y a une hiérarchie
latin,
où le latin
français,
le latin à la dent dure, quoi. Le latin à la dent dure et
le latin est snob.
Le latin, c'est la langue, mais c'est la langue supérieure.
Eh oui.
C'est la langue de l'élite. Et donc pour en revenir à la Révolution, la Révolution a voulu mettre un terme à ce décalage, cette différence de structure entre deux langues, une langue supérieure de la cour, de l'élite, le latin pour l'Église, le français, voilà, par rapport au patois. Et on a décidé, comme on était en République, qu'on était tous égaux, qu'à partir de maintenant, on parlerait la même langue, une langue commune, une langue unique, une langue national. Voilà, donc on va démolir tous les patois au nom de cette égalité.
Et il y a des nouveaux mots qui vont arriver, c'est ça, dans la langue, grâce aux révolutionnaires. On va renommer les mois, par exemple.
On va renommer les mois, les villes aussi, c'est marrant. Regardez Montmartre. Moi, quand on est à Paris, pendant la Révolution, ça ne s'appelle plus Montmartre, ça s'appelle le Mont Marat, du nom de Jean-Paul Marat, qui était un grand révolutionnaire. Même Mont-de-Marsan, là, en ce moment, je tourne dans les Landes, et bien Mont-de-Marsan, là aussi, pendant la Révolution, ça s'appellera le Mont Marat.
Ouais. Saint-Étienne aussi est transformé.
Oui, c'est un nom comme c'est
Libreville.
Libreville.
Libreville. J'ai découvert ça dans votre livre romanesque publié chez Michel Laffont. En fait, tout ce qui est lié à la religion est transformé.
Voilà, tout ce qui pouvait rappeler l'ancien régime avec ses abus, avec ses privilèges, ses différences de caste entre la noblesse et le clergé par rapport à un petit peuple toujours méprisé, humilié, va voler en éclats.
Laurent Deutsch, le français d'aujourd'hui, on l'a compris grâce à vous, c'est un melting pot, c'est un mélange. Il y a aussi des mots qui nous viennent par exemple de l'arabe.
Oui.
Lesquels?
Ah bah, il y en a des centaines.
Beaucoup liés aux mathématiques, si
c'est souvent lié. Bah alors, c'est des mots. D'ailleurs, c'est pas des mots qui sont arrivés là récemment avec l'immigration récente, ouais. Après pendant la reconstruction, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est des mots qui sont là depuis des centaines d'années. C'est des mots qui sont là depuis les croisades. Des mots arabes, des centaines de mots arabes.
Algorithme, par exemple.
Voilà, oui. Algèbre, azimut, arithmétique, alcool, jupe, orange, café, sucre. Tous ces mots-là nous viennent de l'arabe et nous viennent des croisades. Donc, ça fait des centaines d'années qu'il y a des centaines de mots arabes. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, dans le français que nous employons, vous et moi, il y a 10 fois plus de mots arabes que de mots gaulois. Il y en a plusieurs centaines, presque un millier.
Vous rendez hommage, il nous reste allez, 30 secondes pour le faire, au hussard noir de la République. Pourquoi, Laurent Deutsch?
Parce que c'est hussard noir.
Donc les instituteurs de...
Je leur rends hommage. En tout cas, ils ont leur importance. C'est eux qui vont vraiment, par souci d'uniformisation d'un pays qui doit parler la même langue, c'est la phrase de Nicolas Aurem dans un autre temps qui était « une langue par royaume », eh bien, on va... uniformiser, homogénéiser la langue et obliger tous les petits écoliers, que ce soit des Corses, des Provençaux, des Bretons, mais aussi de tous les écoliers de l'Empire colonial en Afrique ou en Asie, à parler une seule et même langue au nom de l'égalité et de cet esprit français qu'on peut contester ou pas, mais en tout cas pour l'époque, il y avait une notion d'égalité absolue. On est tous frères, on parle la même langue, on se comprend comme ça, ça rapproche.
Merci
on
mon frère. Vous.
Merci Laurent Deutsch. Cette folle aventure de la langue française, elle est donc sur scène, au Théâtre de Paris, les dimanches et lundis, et puis dans ce livre publié en version imagée avec ce titre romanesque, c'est chez Michel Lafon. À bientôt.
Merci.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.